Donc aujourd'hui, le samedi 2 novembre 2024, eh bien, cet enseignement a pour but aussi de nous aider dans notre chemin de délivrance. Et comme vous le savez, la délivrance, c'est pas juste on va recevoir une prière qui serait plus efficace qu'une autre. Ce n'est pas notre démarche. Ça serait une démarche un peu magique, vous voyez. Notre démarche, eh bien, c'est de nous tourner vers le Seigneur. Et nous comprenons que la délivrance, c'est en fait une capacité de dépendre de Dieu d'abord et avant tout. Le reste suivra. Alors je vous rappelle, pour ceux qui étaient là d'autres fois, parole de Saint Jean de la Croix, l'âme qui est unie à Dieu, le démon la redoute comme Dieu lui-même. Bonne nouvelle. Puisque nous avons revêtu le Christ, le démon a peur de nous. Bonne nouvelle, non? Voilà. Alors à nous de, effectivement, comme dit Éphésiens 6, de nous revêtir du Christ et de le laisser être le maître de nos vies. Il est bon de nous consacrer toujours à Jésus. La grande intuition de plusieurs saints, dont Saint Louis-Marie de Montfort, se consacrer à Jésus par Marie. Et on va lui appartenir à lui et à lui seul. Alors, pour ceux qui étaient là la dernière fois, parce qu'en fait je reprends un peu ce thème-là, en fait, pour chasser le démon, il suffit d'avoir une vie en Dieu. Vous voyez, c'est simple. Trop simple, très simple. Alors, on avait dit la dernière fois que cette vie en Dieu va consister d'abord à nous ouvrir à son amour, car Dieu est amour. Vous savez, nous enfantons des fausses images de Dieu. Quand on dit « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, pour qui m'arrive tout ça ?» Et puis « Dieu derrière les nuages », etc., etc. Ça, c'est notre production interne. La parole de Dieu, si nous la lisons, si nous la prions quotidiennement, va nous guérir de tous ces mensonges, finalement, qui prennent corps en nous. Et nous allons faire d'abord, eh bien, cet acte de foi. Dieu est bon. Il n'est qu'amour et miséricorde. Vous reconnaissez la dernière lettre de la petite Thérèse. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Oh, je l'aime. Il n'est qu'amour et miséricorde. Craindre dans le sens d'avoir peur, évidemment. Cet amour de Dieu, si nous sommes tournés toujours vers l'amour, alors nous pourrons nous livrer à l'amour. Et notre vie spirituelle va consister à nous livrer à l'amour. La preuve, l'Eucharistie. Il se livre à nous, alors à nous de nous livrer à lui. Et donc, la dernière fois, nous avons prié ensemble l'offrande à l'amour miséricordieux. Mais pour se livrer à l'amour, c'est mon propos d'aujourd'hui, il y a deux conditions, peut-être plus, enfin au moins deux. Première condition, c'est de croire. Est-ce que nous croyons vraiment? Non, mais c'est entre nous. Hein. Vous regardez dans la glace le matin. Et puis, Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime à la folie? À la folie. Est-ce que vous croyez que Jésus est un amoureux fou de vous? Vous y croyez? Je l'espère. C'est la première condition, avoir cette foi et cette confiance. La deuxième condition, c'est être petit enfant devant Dieu. Alors, on va parler de cette fameuse confiance. Je parle souvent de la petite Thérèse de Lisieux, vous me pardonnez. La confiance, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour, on dit la petite Thérèse. Alors, confiance dans l'amour créateur, nous sommes créés et Dieu nous tient dans ses mains. Providence. Alors un jour, Thérèse de Lisieux est sur son lit de mort, elle souffre beaucoup. Et on lui demande si elle a quand même peur de la souffrance. Voilà ce qu'elle répond. Nous qui courons dans la voie de l'amour, je trouve que nous ne devons pas penser à ce qui peut nous arriver de douloureux dans l'avenir, car alors, écoutez bien, car alors c'est manquer de confiance et c'est comme se mêler de créer. Je le répète, c'est comme se mêler de créer. Confiance en l'amour rédempteur. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 3. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, il y a une parole de Job qui a toujours beaucoup plu à Sainte Thérèse. Cette parole de Job, « Quand même Dieu me tuerait, j'espérerais encore en lui. » Quand bien même Dieu me tuerait, j'espérerais encore en lui. Cette parole m'a ravi dès mon enfance, dit Thérèse, mais j'ai été longtemps avant de m'établir à ce degré d'abandon. Maintenant j'y suis, le bon Dieu m'y a mise, il m'a prise dans ses bras et m'a posée là. Et ces paroles de Thérèse qui sont, vous savez, la fin de son dernier manuscrit. C'est toujours un testament. Qu'est-ce qu'elle dit ? Dites bien, ma mère, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Et vous raconterez ensuite l'histoire de la pécheresse convertie qui est morte d'amour. C'est une histoire racontée dans les apophtègmes des pères du désert. Cette pécheresse, c'était une prostituée d'Alexandrie. Voilà que le père va la trouver et il rentre dans sa chambre. Il lui dit, mais qu'est-ce que Dieu vous a fait pour que vous ayez un tel mépris de Dieu? Et il pleure à côté d'elle. La femme est saisie dans son cœur. Et voilà que cet homme va la conduire, puisque sur le moment, elle lui demande de l'emmener loin, dans un monastère. Et il marche dans le désert. Et il faut dormir le soir. Alors il fait juste un tas de sable pour elle, et elle va dormir là. Et dans la nuit, voilà que cet homme Ce père a la vision de Païsie, il s'appelait Païsie, qui monte au ciel et qui rentre directement dans le cœur de Jésus. Alors Thérèse disait, « Vous raconterez l'histoire de la pécheresse convertie qui est morte d'amour. Les âmes comprendront tout de suite, car c'est un exemple si frappant de ce que je voudrais dire, mais ces choses ne peuvent s'exprimer. » C'est la confiance et rien que la confiance. Et aujourd'hui, nous prions pour les défunts, on en reparlera tout à l'heure, la puissance de l'amour rédempteur. Alors, dans les paraboles de la confiance, on en a parlé d'une la dernière fois, c'est le lapin blanc. Le lapin blanc qui est poursuivi par les chiens. Et il y a donc un chasseur qui poursuit tout ce monde-là. Et voilà que le pauvre lapin est au pied du mur et les chiens le cernent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans les bras du chasseur. Et le chasseur va utiliser toutes ses forces à protéger ce lapin. Une autre parabole, c'est la parabole des deux enfants espiègles. Deux enfants espiègles et désobéissants. Et le papa va rentrer, attention. Alors il y en a un qui va se cacher derrière l'armoire. Et puis l'autre, il se jette dans les bras du papa. Puis il lui raconte tout ce qu'il a fait de mal. Alors, et il promet de ne jamais recommencer, et il demande à son père de le punir par un baiser. Vous comprenez que cet enfant a une autorité sur le cœur du père. Et Thérèse nous fait comprendre comment nous pouvons nous situer devant Dieu si nous avons vraiment confiance. Un jour, on montre à la petite Thérèse une image, vous savez, ces images du temps de Thérèse. Il y a un enfant qui est sur les genoux de Jésus, puis il caresse la barbe, comme ça. Puis il y a un autre enfant très très sage, au pied de Jésus. Il dit, moi je préfère vraiment celui qui lui caresse la barbe. Voilà. Alors, cette confiance, c'est effectivement ce qui fait craquer le Seigneur, puisque il nous aime, et la loi de l'amour, c'est la confiance, justement. Ça, c'est la loi de l'amour. Cette confiance qui va nous conduire à l'amour, comme dit la petite Thérèse, et qui nous délivre de toute peur d'un châtiment. Romains 8, verset 1. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Voilà. Alors ça, c'est notre première condition. Si nous voulons accueillir l'amour, eh bien, croyons en l'amour. Ce qui n'est pas forcément si simple. Parce que en nous avons un gendarme qui est dur. Et à cause de ce gendarme, eh bien, nous pouvons effectivement nous fermer à la miséricorde. Vous savez, souvent, au moment de la confession, quand des personnes confessent, et ça nous est tous arrivé, des péchés dont ils ont honte véritablement. Alors, il y a un travail à faire intérieur, et ce travail va consister à changer de tribunal. On va arrêter de se situer sous le tribunal du moi pour aller sous le regard du Père. Et pour cela, nous avons besoin de dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et vous savez que cette prière a été donnée à Sainte Faustine en même temps que le chapelet de la Miséricorde. « Jésus, j'ai confiance en toi ». Deuxième attitude, nous allons prendre un peu de temps pour reprendre toujours les mots de Thérèse. Restez petit enfant devant Dieu. Alors attention, petit enfant, ça ne veut pas dire infantile. Restez petit enfant devant Dieu. Je la cite, c'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son père. C'est ne s'inquiéter de rien. Ne point gagner de fortune. Être petit, c'est encore ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose, mais reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en a besoin. Mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. Enfin, c'est de ne point se décourager de ses fautes, car les enfants tombent souvent, mais ils sont trop petits pour se faire beaucoup de mal. Alors, rester petit, Thérèse nous dit ces trois choses. Être humble, pauvre d'esprit et simple. Alors allons-y. L'humilité. Sainte Mariam de Bethléem, un jour, Jésus lui montre l'enfer. Et il lui dit, il y a en enfer toutes sortes de vertus, mais il n'y a pas l'humilité. Et au ciel, il y a toute espèce de défaut, mais pas l'orgueil. Alors, cette vertu d'humilité, à nous de la demander à Dieu dans notre combat spirituel. Je cite la grande Thérèse d'Avila, « Le démon nuira peu à l'âme, ou même il ne lui portera aucun dommage si elle est humble. » Allez, je le répète. « Le démon nuira peu à l'âme, ou même il ne lui portera aucun dommage si elle est humble. » Dieu ne permettra pas au démon de tromper une âme qui se défie absolument d'elle-même. Alors, l'humilité. L'humilité, c'est un fruit du Saint-Esprit, comme vous le savez, donc un fruit de l'amour. L'amour est doux et humble. Venez à moi, vous tous qui peinez, dit Jésus, sous le poids du fardeau. Moi, je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 28. Peut-être, on pourrait dire une stricte équivalence entre amour et humilité. On rajoutait la douceur, mais souvent, l'humilité et la douceur vont ensemble dans les Écritures. Lorsqu'on parle de Moïse, l'homme le plus humble que la terre ait connu. Parfois, on va traduire le plus doux. Alors, l'humilité, nous le verrons, c'est en fait une position devant Dieu, devant les autres. On se reçoit de Dieu dans la vérité de son être. Et puis, on va se situer comme serviteur, dans l'obéissance. Alors, cette attitude de vérité, vérité, oui, Sainte Thérèse d'Avila dit, l'humilité n'est autre chose que de marcher selon la vérité. L'humilité n'est autre chose que de marcher selon la vérité. Et la petite Thérèse de Lisieux, à la fin de sa vie, seulement à la fin de sa vie, elle dit « Oui, il me semble que je n'ai jamais cherché que la vérité. Oui, j'ai compris l'humilité du cœur. Il me semble que je suis humble. » C'est dans les dernières paroles de Thérèse. Je n'ai jamais cherché que la vérité. Alors c'est vrai qu'en dehors de Dieu, nous avons aussi pas seulement des images fausses sur Dieu, mais des images fausses sur nous-mêmes. Soit nous nous dévalorisons, je n'ai pas de valeur, soit nous nous survalorisons, je suis sans péché. Mon père, je n'ai pas de péché. On me l'a fait plusieurs fois celle-là. En général, je dis, ben, je vais vous aider à les trouver, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, le travail intérieur, c'est effectivement, c'est une grâce, se connaître, se regarder. Eh bien, en Dieu. On va commencer par quelque chose d'un peu dur. C'est un dialogue de Sainte Catherine de Sienne, on en a déjà parlé, à Jésus. Et elle dit « Âme misérable, qui donc es-tu pour que Dieu daigne converser avec toi face à face ? Seigneur, qui suis-je ? Et dis-moi aussi, Seigneur, qui tu es ?» Alors, le Seigneur apparaît à Catherine de Sienne et elle lui dit « Sais-tu, ma fille, ce que tu es et ce que je suis ? Si tu apprends ces deux choses, tu seras bien heureuse. Tu es celle qui n'est pas. Et moi, je suis celui qui suis. » Vous êtes heureux, hein ? Quel bonheur ! Eh bien oui, parce que Dieu vient et il nous remplit de sa vie. Oui, c'est lui notre vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne nous laisse pas à notre néant, qui veut dire l'absence de vie sans lui. Si tu gardes en ton âme cette vérité, jamais l'ennemi ne pourra te tromper. Tu échapperas à tous ses pièges. Jamais tu ne consentiras à poser un acte qui soit contre mes commandements. Et tu acquerras sans difficulté toute grâce, toute vérité et toute clarté. Alors, si nous vivons effectivement sous le regard de Dieu, ce que je vous conseille, pour aller vous confesser, si on y arrive, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres disponibles, mais bon, lorsque nous allons nous confesser, soit nous faisons, si vous voulez, un examen de conscience d'une façon assez intellectuelle, c'est le moi avec le moi. Et puis on fait notre liste de péchés. Soit nous prions le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle justement ce qu'il veut extirper en nous. Vous voyez ? Et ça sera plutôt notre démarche. Alors, effectivement, l'humilité qui est vérité, regardons la Sainte Vierge. Au moment du son Magnificat, qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, on a l'habitude de dire « Il s'est penché sur son humble servante ». Ce n'est pas très bien traduit. Non, ce n'est pas très bien traduit. Ce serait plus juste de dire « Il s'est penché vers l'humiliation, entendez, la bassesse de son esclave. » Ça vous rend heureux, j'espère. Esclave, en grec « doula ». Ce n'est pas un diaconat, c'est doula. Parce que la différence entre l'esclave et le serviteur, c'est l'esclave, il appartient à son maître tout le temps. Et puis, il n'est pas payé pour ce qu'il fait. L'amour est gratuit entre nous. Tandis que le serviteur, il travaille dans les heures ouvrables, puis il est payé. Ça, c'est pas l'amour. L'amour est gratuit. Il s'est penché sur son humble servante. Voilà. Alors, si nous sommes dans cette lumière, alors nous pourrons voir notre péché. Je cite saint Éphrem, qui a dit « Celui qui voit son péché est plus grand que celui qui ressuscite les morts. » Celui qui voit son péché est plus grand que celui qui ressuscite les morts. Alors allons-y, demandons au Seigneur de nous montrer aussi ce qui a besoin d'être sauvé en nous, vous voyez. Reconnaître son péché, pas seulement devant Dieu, mais devant les autres, c'est plus difficile, vous me direz. L'épître de saint Jacques, chapitre 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » J'ai vécu longtemps en communauté et je vous fais une confidence. Pendant plusieurs années, nous avions l'habitude, avant l'office de résurrection, de nous demander pardon mutuellement, avant de chanter la louange du Seigneur. Évidemment, rien d'obligatoire, si on n'avait rien à dire. Alors certains disaient « Oh, je vous demande pardon si je vous ai offensé », ce qui ne sert à rien, ce n'est pas une demande de pardon. Mais je vous promets que ça a été, en fait, une source de grâce. Un jour, on a arrêté et on a eu beaucoup de difficultés dans la communauté. Savoir reconnaître devant les autres ses torts. Alors, j'avais envie de vous lire ce qu'en dit la petite Thérèse. « Vous savez, ma mère bien-aimée, que je préfère le vinaigre au sucre. » Manuscrit C. « Mon âme aussi se fatigue d'une nourriture trop sucrée. Et Jésus permet alors que l'on lui serve une bonne petite salade bien vinaigrée, bien épicée. Rien n'y manque, excepté l'huile, ce qui lui donne une saveur de plus. » Une bonne petite salade m'est servie par les novices au moment où je m'y attends le moins. Le bon Dieu soulève le voile qui cache mes imperfections. Alors, mes chères petites sœurs, me voyant telle que je suis, ne me trouvent plus tout à fait à leur goût. Avec une simplicité qui me ravit, elles me disent tous les combats que je leur donne, ce qui leur déplaît en moi. Enfin, elles ne se gênent pas davantage que s'il était question d'une autre, sachant qu'elles me font un grand plaisir en agissant ainsi. Ah vraiment, c'est plus qu'un plaisir, c'est un festin délicieux qui comble mon âme de joie. J'imagine l'ambiance tout à l'heure. Je ne puis m'expliquer comment une chose qui déplaît tant à la nature peut causer un si grand bonheur. Si je ne l'avais expérimenté, je ne pourrais le croire. Un jour que j'avais particulièrement désiré d'être humilié, il arriva qu'une novice se chargea si bien de me satisfaire qu'aussitôt je pensais à s'aimer, maudissant David. Et je me disais, oui, c'est bien le Seigneur qui lui ordonne de me dire toutes ces choses. Et mon âme savourait délicieusement la nourriture amère qui lui était servie avec tant d'abondance. C'est ainsi que le bon Dieu daigne prendre soin de moi. Il ne peut toujours me donner le pain fortifiant de l'humiliation extérieure, mais de temps en temps, il me permet de me nourrir des miettes qui tombent de la table des enfants. Ah, que sa miséricorde est grande, je ne pourrais la chanter qu'au ciel. voir effectivement son péché, ses défauts, les avouer aux autres, voilà ce qui fait fuir le démon, mais aussi reconnaître ses qualités. Sinon, on est dans la fausse humilité. Mais sachant que ces qualités viennent de Dieu, et s'il s'agit de vertus, eh bien, ce ne sont pas les nôtres. Dieu les met en nous. Un jour, toujours vers la fin de sa vie, elle est à l'infirmerie, et on faisait beaucoup l'éloge de sa patience. Et elle répond, « Je n'ai pas encore eu une minute de patience. Ce n'est pas la mienne. On se trompe toujours. » Elle dira être petit, c'est encore ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose, mais reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en a besoin. Finalement, cette vertu d'humilité qui fait fuir le démon, c'est une position, comme on le dira tout à l'heure, sous le regard de Dieu, en français courant, mais dans le langage spirituel, ça s'appelle la vertu de simplicité. Simplicité. On sait que ce regard n'est que positif sur nous. Alors, un jour, toujours petite Thérèse, qui était à l'infirmerie, elle demande, après la messe, la première messe d'un prêtre qui donc était un jeune ordonné, elle demande à voir son calice. Et elle se regardait, elle regardait très longuement au fond du calice. Alors on lui dit, « Mais pourquoi donc regardez-vous si attentivement le fond du calice ?» Elle répond, « Parce que je m'y reflète. À la sacristie, j'aimais faire cela. J'étais contente de me dire, mes traits se sont reflétés là où le sang de Jésus a reposé et descendra encore. » Et dans son acte d'offrande, elle va supplier le Seigneur de ne la regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Alors si pour vous, ce n'est pas forcément évident le matin, lorsque vous êtes devant votre glace de salle de bain, de dire « je suis une merveille », je vous conseille de mettre la sainte face de Jésus collée sur la glace. D'accord ? Ça sera plus facile après. Voilà. Toujours se regarder à travers la sainte face de Jésus. Et nous pourrons effectivement avoir un autre regard sur notre péché. Parce que, si je reprends les paroles de saint François d'Assise, eh bien, quand l'homme voit une faute à condamner ou à punir, Dieu, lui, voit tout d'abord une détresse à secourir. Le Tout-Puissant est aussi le plus doux des êtres, le plus patient. En Dieu, il n'y a pas la moindre trace de ressentiment. Voilà, se situer devant Dieu, évidemment, dans une grande liberté, nous l'avons compris, par rapport au regard des autres, c'est donc une grâce aussi à demander. Dans l'humilité, donc, une vérité, se situer devant Dieu, se regarder à travers les yeux de Jésus, et une deuxième attitude qui est celle de l'obéissance. Pas d'humilité sans obéissance. Nous savons que l'orgueil satanique, c'est la désobéissance. Il ne veut pas, l'ennemi, il ne veut pas de commandement qui ne soit pas les siens. Et il reste dans le chiffre 6. D'accord ? Le sixième jour, création de l'homme. Il ne veut pas du chiffre 7. On va se reposer en Dieu. On est fait pour se reposer en Dieu. Ce repos qui est l'amour, vous voyez, ce repos de l'âme, il n'en veut pas. Alors, nous, notre choix, c'est effectivement de choisir la vie en Dieu. Nous savons que les commandements ne sont pas un règlement, on en a déjà parlé ici, mais ils sont le mode d'emploi de la vie. Et Jésus dira, fais ceci et tu vivras, le mode d'emploi de la vie. Si un jour nous sommes tristes, il nous suffit d'obéir à Dieu, ses commandements. C'est aussi Sainte Catherine de Sienne qui nous dit ça. Elle nous dit que la tristesse en nous, c'est le manque de foi, le manque d'espérance et le manque d'amour. Point. Après, il y a la tristesse psychologique, c'est autre chose, la tristesse du corps, mais la tristesse de l'âme. Donc, pour nous, ça sera une attitude d'obéissance. On veut obéir. Et on va dire au début de nos journées, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Non pas comme une espèce de fatalité. Je veux être un acteur, Seigneur, de ta volonté. C'est ça ce que ça veut dire, le Notre Père. Et c'est aussi accepter. Accepter notre condition humaine dans ses limites. Dieu dit, dans le jardin d'Éden, « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dans l'obéissance, il y a aussi l'acceptation de toutes les limites qui nous sont imposées. Non pas pour les vivre de façon passive, évidemment, mais déjà accepter notre pauvreté essentielle. Et enfin, l'esprit de soumission. Pas seulement obéir à Dieu, mais aussi obéir aux autres. Vous me direz, c'est peut-être plus difficile. Sainte Mariam de Bethléem, dans un moment d'extase, elle va dire à une sœur un peu timorée, « L'obéissance et la soumission sont deux cierges pour éclairer l'âme dans les ténèbres. C'est dans le moment noir, dans le moment terrible, qu'il faut se laisser conduire par l'obéissance. » Éphésiens 5. Alors, quand on parle d'Éphésiens 5, on pense que on entend que les femmes soient soumises à leur mari. Mais attendez, juste avant, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. D'accord ? C'est pas seulement les femmes. Il y a une insistance sur les femmes après, oui. Mais il dit quand même, les maris, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église, se donner entièrement. C'est donc une obéissance, j'allais dire, supérieure. On obéit au Père du ciel. Soyez soumis les uns aux autres. Alors, l'Église, dans le droit canon, nous dit que les fidèles sont tenus d'adhérer par obéissance chrétienne à ce que les pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi, vous décide en tant que chef de l'Église. Les clercs sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et obéissance au pontife suprême, et chacun a son ordinaire propre. Voilà. Donc, dans cette fameuse humilité qui va faire fuir le démon, il y a d'abord cette vérité dont nous avons parlé, mais aussi cet esprit de soumission et d'obéissance. Éclairé, évidemment. Si vous me demandez, imaginez que vous êtes mon supérieur et que vous me demandez d'aller me faire exploser dans le marché du coin, je vous dirais non. Parce que on n'obéit pas à un ordre qui contredit la loi de Dieu. C'est saint Thomas qui le dit, et d'autres. Voilà. Et tout cela pour que nous devenions des êtres qui écoutent. Deutéronome 6, écoute Israël. L'obéissance est une capacité d'écouter. Alors vous voyez, on peut un petit peu jauger de notre humilité dans notre capacité d'écoute. Est-ce que lorsque je suis avec d'autres, c'est je. Moi. Ou est-ce que je suis plutôt dans une curiosité d'entendre et d'écouter autre que moi? On a une clé ici. Philippiens 2.